Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et ID Pro sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Imo, Porte de Versailles au Salon CIMI. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Guilbeault, directeur général de l'EPA Sénart. Bonjour Olivier.
Bonjour Kagoua.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'EPA Sénart, qui est donc un établissement public chargé de l'aménagement et du développement de l'opération d'intérêt national de Sénart, un territoire qui est stratégique, Grand Paris Sud. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas en détail l'EPA, justement, vous pouvez rappeler sa mission et l'envergure du territoire que vous couvrez ?
Alors l'établissement public d'aménagement de Sénart, il a un peu plus de 50 ans, créé au titre des villes nouvelles qui ont encerclé la région Île-de-France avec première perspective de créer du logement, produire des logements et les équipements associés. Donc ça fait 50 ans qu'on s'y emploie sur le territoire de Sénart, qui est un territoire entre Évry et Melun. Et au sein d'une communauté d'agglomération aujourd'hui qui se nomme Grand Paris Sud Seine-Essonne Seine-Oise.
Est-ce que, parce que je crois que 2025 ça a été comme partout en France une année assez dense pour Sénart et pour tout ce territoire, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner 3 ou 4 réalisations marquantes qui illustrent justement l'activité de l'EPA cette année ?
Alors la première activité marquante, c'est la signature d'un projet partenarial d'aménagement sur un secteur qui se nomme Villaroche à Réau. C'est une opération qui est lauréate de la consultation État France 2030, 55 sites clés en main. Et donc ce projet partenarial d'aménagement qui est en cours de signature va nous mettre en perspective sur un projet de 157 hectares en développement économique en bordure de l'aérodrome de Paris-Villaroche. C'est une longue mission, ça fait vraiment un moment qu'on travaille sur ce sujet. Donc c'est un aboutissement dont on se réjouit. Plusieurs années de travail qui vont véritablement nous mettre en perspective sur ce dossier qui bénéficie d'une convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui fait l'objet d'une de nos conférences demain après-midi. Et donc ça, c'est une vraie belle réalisation dont il faut se féliciter au titre de l'année 2025. L'autre réalisation, alors là c'est un aboutissement, c'est la conclusion d'une opération d'aménagement dite de l'eau vive, où on est en train de conclure les dernières signatures, prochaine et dernière signature le 19 décembre prochain, sur une opération de logement qui est une friche industrielle, qui fait l'objet aussi d'une conférence aujourd'hui même sur notre stand. 515 logements sur un pôle gare, sur une friche industrielle. Et donc c'est une belle réalisation également dont on peut être fier et qui est un aboutissement au titre de l'année 2026. Voilà les deux sujets que je peux citer, puisque d'une certaine façon, notre mission principale au démarrage de cette l'ex-ville nouvelle, c'était de produire du logement, c'était aussi de créer de l'emploi et exactement, d'avoir un équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, notre chiffre d'affaires est plutôt porté sur le développement économique que sur le logement. On est à 60-40.
Alors justement, un lien emploi-logement qu'on va détailler un petit peu. Quel a été justement l'équilibre entre logement, activité économique ou activité tertiaire et espace public ? Parce que j'imagine que c'est un vrai défi pour un territoire mixte comme Sénart.
Alors Sénart a la particularité de ne pas avoir d'architecture sur dalle, d'urbanisme sur dalle.
D'accord.
On est sur un développement qui s'est organisé autour des centres-bourgs. Je dirais en escargot, en étalement urbain, comme on est mal précisé, même si c'est stigmatisant aujourd'hui. Et de ce point de vue, une ville verte où la présence de l'eau est capitale, puisqu'on est sur le plateau de Sénart, un plateau agricole, où chaque champ est une zone humide si on ne la draine pas. Et donc une présence de l'eau, de bassins, une trame bleue extrêmement forte avec une trame verte qui l'est tout autant. Et donc c'est notre marque de fabrique. Et donc en ponctuant des aménagements par des zones d'activité, on est vraiment sur du zonage, hein, des zones d'activité d'un côté et des productions de logements de l'autre. Production de logements de plus en plus en bâtiments en bâtiment, je dirais, plus dense que par le passé. Ça, c'est la vraie marque de fabrique nouvelle de l'établissement, hein. Longtemps stigmatisé par le développement de ces zones pavillonnaires. Aujourd'hui, on est sur du bâtiment de 4-5 étages, en recherchant de la mixité, mais aussi de la densité.
Et j'imagine que c'est très important pour vous, vous en avez un petit peu parlé, de concilier cette densification avec l'attractivité économique et avec la qualité de vie.
Alors, tout à fait. Sachant que la plupart des entreprises que nous installons nous disent qu'elles ont des difficultés pour loger leurs salariés. Et donc c'est capital d'avoir le produit logement qui va bien, au prix qui va bien, dans un contexte paysager de qualité. Mmh. Ça, c'est notre marque de fabrique. Mais malheureusement, je dirais, je ne produis pas assez de logements pour répondre à la demande.
Et justement, il y a une crise du logement en Île-de-France, avec un foncier qui devient rare et cher. Comment est-ce que vous faites pour anticiper ces tensions sur le foncier ?
Alors, les tensions sur le foncier, nous avons la chance, l'établissement public d'aménagement a la chance d'être doté par l'État, à l'origine, il y a 50 ans, d'un foncier assez pléthorique, qui a été acheté à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'État. Il s'agissait de l'Agence foncière et technique de la région parisienne à l'époque, aujourd'hui Grand Paris Aménagement, qui gère pour notre compte du foncier à vocation développement économique ou logement. Et donc, de ce point de vue, nous sommes dotés en foncier. On est un des rares secteurs encore en Île-de-France à être doté d'un foncier, je dirais, très très généreux.
D'accord.
Pour autant, encore une fois, l'objectif étant de moins consommer d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Oui. Et le schéma directeur de la région Île-de-France, qui a été récemment voté, nous y engage. D'où on travaille de plus en plus fréquemment et de façon préférentielle avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. C'est l'objet d'une troisième conférence que nous aurons demain après-midi pour justement travailler sur les actes que nous avons initiés il y a 40 ans en renouvellement urbain pour aller racheter du foncier, remembrer du foncier sur les centres-villes que nous avons réalisés il y a maintenant 30 ans pour permettre justement d'apporter de la densité dans les productions de logements que nous offrons.
Et quel est votre regard justement, ce que vous le disiez, l'établissement il a 50 ans à peu près. Est-ce que vous avez vu les modèles de consommation du logement ou d'attractivité? Est-ce que vous avez vu quelle évolution vous pouvez constater? Parce que j'imagine qu'il y en a eu sur toutes les décennies.
Nous sommes dotés d'équipes de maîtrise d'œuvre urbaine sur tous nos projets, en externalisant ce travail qui était internalisé jusqu'à présent au sein de l'établissement public. Il y a un changement radical de paradigme par rapport à la consommation d'espace. On a d'anciennes opérations sur lesquelles justement on est amené à réintervenir, où on ne comptait pas le foncier.
Ouais.
Voilà, c'est...
Il y avait moins de maîtrise.
Il y avait de la maîtrise, mais des espaces beaucoup, beaucoup trop généreux. Un travail sur les plantations où on n'imaginait pas réchauffement climatique, on n'imaginait pas les îlots de chaleur. On plantait généreusement des plantes endogènes, alors qu'aujourd'hui, il faut planter autre chose parce que sinon, ça crève l'été. Enfin, voilà, on a un vrai changement de paradigme. Je dirais, je suis de la génération où encore on a passé ce cap. Et je vois les nouveaux collaborateurs qui arrivent, qui sont beaucoup plus au fait de ces sujets, beaucoup plus intéressés à ces sujets. Et donc, c'est
un changement qui est générationnel ?
C'est pas un changement qui est générationnel dans la mesure où... Je dirais que j'ai l'âge de l'établissement et que j'y prends ma part. Mais oui, il y a une prise de conscience et aussi de la part de nos équipes de maîtrise d'œuvre qu'on flèche sur ces sujets-là de façon préférentielle aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas précédemment.
Allez, un petit mot sur l'attractivité du territoire en 2026. C'est quoi votre regard justement sur l'année à venir en 2026? Quels sont les grands chantiers que vous allez, alors vous en avez parlé un petit peu, mais lancer ou poursuivre?
Alors, la signature du PP à Villaroche nous met en droite ligne sur une perspective sur ce secteur. Encore une fois, lauréat France 2030, c'est clé en main. On a déjà des contacts, il est difficile d'en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment l'avenir en développement économique. De fait, nos trois conférences sont un peu le reflet de cette année 2026 qui s'annonce. La production de logements de qualité avec deux projets d'écoquartier nouveaux que nous portons. Un premier sur un écoquartier livré, et le second sur un écoquartier en devenir avec Areo, un programme de 700 logements en centre-bourg. un travail auprès des entreprises qui s'installent, PME, PMI. C'est le gros des troupes qui arrivent sur le territoire, qui apportent de l'emploi qualitatif. C'est vrai que par le passé, l'établissement a été là aussi stigmatisé par l'accueil de grands comptes de logistique. C'est terminé. Et donc, voilà. Donc
le tissu de PME qui va se créer.
Exactement. Ouais. Et c'est véritablement l'objectif que nous portons avec de nouvelles opérations. Prise d'initiative cette année sur une opération d'activité sur Tigerie, l'opération de Villaroche dont je parle. Donc voilà, mise en perspective de nouveaux projets d'activité pour accueillir encore et toujours plus d'emplois sur le périmètre. Et aussi un accompagnement avec des projets urbains de qualité en écoquartier.
Allez, Olivier Guilbeault, avant de se quitter, on est ici sur le Salon CIMI 2025. Donc vous l'avez dit, vous avez trois conférences que vous allez animer. Qu'est-ce que vous espérez de ce salon? Qu'est-ce que vous venez y chercher?
Alors je viens y chercher un certain nombre de contacts. Aujourd'hui, il est difficile de produire du logement ou d'accueillir des PME, PMI. Et donc, voilà, j'ai un carnet de rendez-vous extrêmement varié parce qu'en fait, il s'agit aujourd'hui d'avoir des projets qui apportent de l'additionnalité. Avec, et c'est un souhait des élus, notamment du président de la communauté d'agglomération, Michel Bisson, qui nous accompagne sur ces dossiers. Et donc, voilà, on ne peut plus réaliser un programme de logement sans y apporter de l'additionnalité, de l'aménité, des formations, de la formation, du commerce, des bureaux, des espaces de coworking. Voilà. Et tout ça, ça s'organise avec différents acteurs. Voilà, et on n'est plus monoproduit. Et donc c'est cela que je viens chercher au sein de ce salon.
Une diversité, une complémentarité.
Exactement.
Merci beaucoup Olivier Guilbeault pour ce tour d'horizon riche et clair de l'EPA Sénart. Hein. On retiendra que c'est pas seulement une banlieue ou une périphérie, c'est un territoire qui est pensé, structuré, vivant et avec des ambitions fortes en matière de logement, d'activité économique et d'équilibre urbain. Merci beaucoup pour cet échange et je vous souhaite un très bon Salon CIMI.
Merci.
Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.